Voilà, c'est merveilleux, n'est-ce pas, de d'être capable de reconnaître dans ces choses du quotidien que le Seigneur intervient, même dans les petites choses. Quand ça nous arrive, sont peut-être des grandes choses en fait, et à ce moment-là, le Seigneur est présent, et ça glorifie Dieu que de le reconnaître et de le proclamer. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole déjà donnée ce matin, dans les chants, dans les prières, dans l'exhortation. Seigneur, merci pour les nombreuses manières dont tu choisis de t'adresser à nous. Et Seigneur, je prie pour que nos cœurs soient ouverts, que nous puissions t'entendre, que ta parole puisse profondément pénétrer à l'intérieur de nos cœurs et que nous soyons convaincus que tu t'es adressé à nous ce matin, que tu as répondu à une prière, que tu as répondu à un besoin, peut-être qui n'a même pas été audiblement prononcé. Que tu as donné la guérison là où c'était nécessaire, ou la délivrance. Seigneur, que nous puissions connaître cela, ta parole agissante dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans notre société occidentale, le défi pour les chrétiens, c'est pas tellement de croire en Dieu, de conserver la foi de façon extérieure. C'est assez facile, n'est-ce pas? Nous n'avons pas la pression que connaissent certains concernant la foi. Ce qui est plus difficile, c'est de garder une foi dynamique, vivante, une foi réveillée, qui nous évite donc de nous endormir régulièrement et de devoir être reboosté dimanche après dimanche, garder une certaine régularité dans notre foi. Là, le monde occidental nous donne la possibilité de connaître beaucoup de voix, d'entendre beaucoup de voix qui se nomment Dieu, mais de rester fidèle au Seigneur, à la parole de Dieu, c'est pas toujours facile. Et le danger, c'est de vivre une relation avec un Dieu qui est mélangé. C'était le péché d'Israël, n'est-ce pas, de mélanger le Dieu des dieux, le Dieu qui les avait sortis du pays d'Égypte, de le mélanger avec des dieux communs, des dieux du quotidien. Ils avaient des petits dieux portables qu'ils emmenaient avec eux. Et on a aussi nos dieux portables, n'est-ce pas? Il y en a qui sonnent parfois. Alors, ce ne sont pas les mêmes, mais bon. Enfin, voilà. Et Dieu avait fait une promesse, vous en rappelez, à Abraham, on va lire dans Genèse 22, verset 17. Et quand on pense à cette promesse, on se rappelle que Dieu avait dit: « Je te donnerai une postérité qui sera immense. » Et alors on parle de grains de sable, on parle d'étoiles dans le ciel, immense comme ça. « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Mais il rajoute encore quelque chose. Point virgule. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dieu dit, d'une part, je te promets une descendance nombreuse. Et d'autre part, je te promets que cette postérité, cette descendance, possédera la porte de ses ennemis. Alors, je ne sais pas ce que les militaires peuvent dire lorsqu'on possède la porte de son ennemi, c'est qu'on habite chez lui, n'est-ce pas? C'est qu'on est installé, on est entré, on a pris nos quartiers dans sa propriété. Et c'était ça que disait Dieu. Non seulement je te donnerai une postérité, mais cette postérité possédera, aura la victoire sur ses ennemis. Et j'ai le plaisir et la joie de vous annoncer que nous sommes cette postérité. Est-ce que nous en sommes conscients? Ce que Dieu disait à Abraham, il le disait avec l'assemblée des croyants dans sa tête, sachant que cette promesse qu'il était en train de dire était en même temps en train de s'accomplir. Et elle est en principe accomplie, elle est accomplie, mais en principe réellement accompli dans nos vies. La promesse a été réitérée plusieurs fois par les prophètes, dans les psaumes aussi. Et une nouvelle fois, juste avant la naissance de Jésus. On le lit dans Luc au chapitre 1 et au verset 71. C'est Zacharie qui parle, qui prophétise, Zacharie étant le papa de Jean-Baptiste. Et je vais commencer au verset 68, Luc 1, 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. Dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. » N'est-ce pas? C'est la même promesse. Et ce qui est rajouté, en tout cas par rapport à la promesse faite à Abraham, c'est que Dieu nous a suscité un sauveur. Alors, on est à l'approche de Noël et on a l'habitude, lorsqu'on témoigne autour de nous, faire une sorte de comparaison entre les cadeaux de Noël et le cadeau de Jésus sur la terre. Voilà, c'est bien. Mais il est dit un sauveur, mais il est dit aussi un puissant sauveur. Alors, il ne faut pas que notre témoignage change. Ce n'est pas que le Seigneur nous donne un super cadeau de Noël. Il nous donne un puissant sauveur qui est très loin finalement du cadeau et du comparatif qu'on peut faire entre Jésus et les cadeaux de Noël. Il s'agit d'un puissant sauveur qui est dynamique, qui est vigoureux, qui est capable de garder notre vie réveillée, notre vie spirituelle, et qui est un combattant aussi, qui est celui qui va rendre possible de nous installer dans la propriété de l'ennemi, qui est celui qui va nous accorder la délivrance, réellement. Non pas comme une fable qu'on raconte tous les ans à Noël, ou dont on se rappelle, mais qui de façon réelle, de façon effective, et non pas seulement théorique, va nous accorder la délivrance, la possibilité de nous installer dans les portes de l'ennemi. Un puissant sauveur, non pas qu'un sauveur, un puissant sauveur. Et tout cela, non pas pour que nous nous sentions mieux, non pas pour que nous soyons plus à l'aise dans notre vie quotidienne, non pas que pour que nous puissions dire « oui, je suis heureux, je suis dans la joie jour après jour », non pas pour cela. Il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Il nous délivre pour que nous puissions le servir sans crainte. C'est là le but de la venue de Christ. C'est là le but ultime. Évidemment, le Seigneur guérit. Évidemment, le Seigneur répond à nos demandes. Lorsque nous avons des besoins, il nous accorde bien souvent ce que nous lui demandons. Mais ultimement, ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Il est venu comme un puissant sauveur pour nous délivrer de nos ennemis, afin que nous puissions le servir sans crainte. Alors, si la prophétie est vraie, si Christ est effectivement venu, alors nous devrions expérimenter les effets de cette promesse dans notre vie quotidienne. Nous devrions posséder une relation privilégiée avec Dieu. Nous devrions entendre sa voix. Nous devrions marcher avec lui, non même pas derrière lui. Il est dit marcher devant lui, dans la sainteté et dans la justice. Si Christ était venu, si Christ est venu, nous devrions être capables de résister aux attaques de l'ennemi. Nous devrions être ceux qui font du mal au camp de l'ennemi. Et nous ne devrions pas être des victimes de des plans qu'il a forgés contre nous. Nous devrions être aussi activement au service de Dieu. Non pas juste de temps en temps, le dimanche, nous dire « bon, voilà, maintenant j'ai passé toute une semaine à l'extérieur de l'église, je vais revenir, c'est tellement bien ». De me retrouver en compagnie des frères et sœurs, ça va me rebooster, je vais me sentir dans une humeur positive en repartant, et ça ira mieux pour toute la semaine. Ou bien nous ne devrions pas nous dire, je vais aller à l'église, parce que si je ne vais pas à l'église, je vais me sentir mal. Ou bien, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut venir dans une église, il y a celle qu'on veut bien dire et il y a celle qui finalement nous refoulons. Ces raisons qui son tout, sauf l'envie d'entendre la voix de Dieu. Si Christ est vraiment venu, et il est venu, mais si Christ est vraiment venu pour nous, alors nous devrions être délivrés de nos ennemis et capables d'entendre sa voix. Avons-nous rencontré un puissant sauveur? Ce sauveur nous a-t-il délivrés? Est-ce que nous marchons devant lui? Je ne vais pas répondre à ces trois questions ce matin. Cette prédication est en principe en trois parties. Je dis en principe parce que ça peut aussi faire quatre, mais normalement trois. Et je vais répondre à ces questions, je vais commencer à répondre à ces questions par un texte que j'ai pris dans Éphésiens au chapitre 4, et qui est en fait l'exposition de ces versets dans Luc 1, versets 68 à 71, que fait l'apôtre Paul sur la réalité de la venue de Jésus. Donc nous allons lire dans Éphésiens au chapitre 4 et à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Avons-nous rencontré un puissant sauveur ou sommes-nous toujours en proie à la corruption du péché? Dans les premiers versets, l'apôtre passe en revue tout ce qui fait qu'un homme est éloigné de Dieu. Il crée une sorte d'édifice à étages qui montre de quoi est constitué ou comment est constitué l'homme qui est loin de Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Verset 18 notamment et verset 19. Et je vais les prendre un par un. Pas dans l'ordre tel qu'ils sont dans le texte, mais dans l'ordre tel qu'ils apparaissent comme cet édifice. Tout d'abord, je vais relire le verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et je vais commencer par l'endurcissement du cœur, la dureté du cœur. L'endurcissement est un peu comme la fondation, le fondement de cet édifice. Sur un cœur dur, repose tout un édifice entièrement consacré à autre chose qu'à Dieu. Sur un cœur dur, rien de spirituel ne peut être spirituel, du divin, je veux dire, ne peut être construit. Il n'y a rien de divinement spirituel qui tienne. Seule la grâce de Dieu peut évacuer cette chape, cette fondation. Seule la grâce de Dieu peut détruire cette fondation pour y mettre quelque chose qui vient de Dieu. Je dirais que cette fondation, c'est ce qu'on appelle communément le moi. Aujourd'hui, et si vous avez été éducateur pendant certains temps, vous savez à quel point le moi est important. Lorsque les gens ne vont pas bien, qu'ils boivent, qu'ils ont besoin d'aide sociale, qu'ils ont besoin d'aide en tout genre, on donne en réponse l'image du moi. Il faut modifier l'image du moi. Ces gens ont une mauvaise image d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. Aujourd'hui, malheureusement, je me suis aperçu que dans l'Église, les choses étaient devenues pareilles. Les chrétiens sont comme ils sont. Ils sont des pécheurs invétérés parce qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Mon œil. Le problème, c'est qu'ils ont une image d'eux-mêmes. C'est qu'ils ont construit une image d'eux-mêmes. Que cette construction, elle a pour fondation la dureté de leur cœur. Elle a pour fondation la désobéissance initiale à Dieu. La volonté de tout entendre, sauf la parole de Dieu. Et ce moi s'est construit de cette façon pendant des années. Et ce n'est pas le moi qu'il faut changer. C'est le moi qu'il faut détruire. Et pour détruire le moi, il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu venant pour saper à la base même de tout ce qui forme et forge un homme, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut venir pour évacuer cela et faire que le moi devienne lui. Et ça, c'est le grand problème aujourd'hui. L'apôtre Paul dit que le problème, c'est donc l'endurcissement du cœur, ce cœur dur qui est la racine du problème. Ensuite, il dit ils ont l'intelligence obscurcie. Un peu plus loin, dans 5:8, on le lit, hein. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Ils ont l'intelligence dans les ténèbres. L'intelligence obscurcie. Notre intelligence est obscurcie à cause de la dureté de notre cœur. Et c'est marrant parce que parfois on parle, on s'adresse à des personnes, et vous l'avez peut-être remarqué, et on énonce des évidences bibliques, on parle de choses à faire qui sont ancrées bibliquement. on communique avec des gens qui ont des difficultés dans leur vie quotidienne, avec le péché ou avec ces choses-là, où un frère, une sœur peuvent parler entre eux de situations qui les préoccupent et qui sont personnelles. Et il est curieux de voir comment, alors que la parole qui est donnée est simple et fondée bibliquement, eh bien, il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de possibilité d'entrer dans l'esprit de la personne. Et pourtant, de votre point de vue, mais c'est évident, c'est logique. Mais lorsque nous avons l'intelligence obscurcie, alors les messages les plus évidents, les messages les plus simples, les messages bibliquement les plus logiques ne pénètrent pas dans l'esprit de l'homme. Combien de fois vous avez parlé de Dieu à vos collègues? Combien de fois à vos voisins? Combien de fois vous leur avez dit les choses? N'est-ce pas, José? José se plaint régulièrement de ce que les gens n'entendent pas ce qu'il dit. Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Parce que, alors qu'ils sont capables de comprendre des choses très compliquées, par ailleurs, en lisant des livres, eh bien, lorsqu'il s'agit des choses simples de l'Évangile, ils ne comprennent pas. Il y a une sorte de voile, quelque chose qui fait que tout est opaque. On ne comprend rien. En 3, l'ignorance qui est en eux. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Le résultat d'une intelligence obscurcie, évidemment, c'est qu'il y a ignorance. Lorsqu'on n'arrive pas à apprendre la connaissance de la vérité en soi, eh bien, il n'y a que de l'ignorance. Il n'y a que un grand vide. Et comme je disais, c'est pas parce que voilà, je suis par ailleurs intelligent ou parce que peut-être j'ai 2 doctorats, un prix Nobel de littérature et n'importe quoi d'autre, ou un doctorat en théologie. Eh bien, malgré cela, malgré toute cette débauche d'énergie, malgré toutes ces connaissances, même des faits bibliques, eh bien, je suis ignorant. Et je suis beaucoup plus ignorant qu'un illettré qui aura reçu et rencontré la puissance du Sauveur en lui. N'est-ce pas? Ce qui fait que on connaît, c'est qu'on connaît l'origine des choses. Ce qui fait qu'on sait, c'est qu'on connaît l'origine des choses. Un enfant ne sait pas qu'un four allumé à 220 degrés est chaud. Et vous pouvez lui dire, et croyez-moi, d'expérience, vous pouvez lui dire X fois, ne touche pas à la porte de ce four. C'est chaud, ça brûle. Et quand vous lui avez dit 25 fois, 30 fois, et que vous l'avez retenu, croyez-moi, il en a de la connaissance. Il sait, si vous lui demandez si la porte du four est chaud, il va vous dire « Oui, la porte du four est chaud !» chaude. Mais un jour, il va prendre son élan. Alors que vous êtes loin, il va courir et avec deux mains, pan, il va poser ses mains sur la porte du four. Il est là-bas dans le fond de la salle. Il savait, mais pourtant, il était ignorant, parce qu'il ne connaissait pas l'origine de sa connaissance. N'est-ce pas? Nous avons besoin d'expérimenter pour savoir. L'apôtre continue. Ayant perdu tout sentiment, donc on monte dans l'édifice, n'est-ce pas? On est au troisième étage. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Alors, mon ignorance de la puissance de Dieu, mon ignorance de la puissance du Sauveur et de la volonté de Dieu m'amène invariablement à considérer le mal et le péché comme étant un bien. Parce que ce sont les buts et les objectifs de ma vie qui sont entièrement tournés vers moi-même. N'est-ce pas? J'ai besoin de m'accomplir. L'homme a besoin d'être bien dans sa vie. Et ce qui lui permet d'être bien, avec une racine tel que l'endurcissement de son cœur, tel que l'ignorance, eh bien, ce sont des choses qui sont à l'opposé de ce que Dieu veut pour sa vie. L'homme aime le péché. C'est une grossière erreur de croire que les gens haïssent le péché. Jésus lui-même en parle et on peut le lire à d'autres endroits, plus ou moins clairement, mais juste à titre d'exemple, je pense dans Jean 3, verset 19. Je vais prendre à partir du verset 18. Celui qui croit en moi, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez ? Les hommes préfèrent les ténèbres. Et ce choix, d'une certaine manière, est naturel. Il correspond à la racine, il correspond à la base de l'édifice sur lequel reposent toutes ces choses. L'orientation vers des choses qui font du bien à l'âme, évidemment, nous amène en conséquence à pratiquer le péché, toutes sortes, toutes formes de péché, toutes sortes de pratiques impures, n'est-ce pas, livrées à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Toute forme de pratiques addictives dans le sexe, dans la drogue, la boisson, les jeux d'argent, les conduites alimentaires déréglées, toutes ces choses-là ont pour racine cette fondation dont parle l'apôtre Paul, qui est l'endurcissement du cœur. Vous voyez, on essaye de trouver beaucoup de causes au péché. Des causes sociales, des causes psychologiques. L'apôtre Paul nous donne la cause essentielle. C'est qu'il y a un cœur dur sur lequel rien d'autre ne peut être édifié que le péché et que une vie de péché. Le résultat de cela, il est dans le verset 17, au début. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que nous sommes étrangers à la vie de Dieu que nous faisons toutes ces choses. C'est parce que notre cœur est endurci et que nous faisons toutes ces choses, et c'est pourquoi nous sommes étrangers à la vie de Dieu. Et ça, c'est l'état de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants, quel que soit leur âge, quelle que soit leur condition sociale, quel que soit leur pays de naissance, qu'ils soient nés dans des familles chrétiennes ou qu'ils soient nés dans des familles non croyantes. Ça concerne tout le monde. Tout le monde est né dans cet état. Il n'y a personne ici qui soit né dans un état différent de celui-là. Et s'il n'y a pas eu la rencontre avec un puissant sauveur, eh bien il n'y a pas eu de changement dans cette vie. On peut s'habituer à vivre différemment. Les enfants qui sont nés dans l'Église peuvent s'habituer à prendre des bonnes manières. Mais en réalité, ils sont conçus selon cet édifice que l'on vient de détailler. Et leur vie n'est pas différente, fondamentalement, de ceux qui sont étrangers à toute forme de culte chrétien. Est-ce que nous réalisons cela? Est-ce que nos enfants le savent? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Maintenant, heureusement, l'apôtre ne reste pas sur ce constat. Et il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit au début, dans le verset 17, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi ? Verset 20, parce que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Et je réitère ma question. Est-ce que nous avons rencontré un puissant sauveur. Je réitère ma question parce que l'apôtre Paul lui-même la pose. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. L'apôtre était conscient que dans l'assemblée qu'il avait en face de lui, ou à ceux auxquels il écrivait, il y avait ceux qui n'avaient pas entendu. Il y avait ceux qui n'avaient pas rencontré un puissant sauveur. Si du moins vous l'avez entendu. Si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Bien-aimé, à moins que vous n'ayez entendu la voix d'un puissant sauveur, vous êtes toujours sous l'emprise d'une volonté, d'un moi orienté vers des futilités, orienté vers le service de sa propre personne. Et vous êtes toujours mort dans vos offenses et dans vos péchés, tel qu'il est dit dans Éphésiens 2 au verset 1. Si la voix de Dieu ne vous a pas touché au point que vous êtes en attente et en demande de changement de vie, alors vous êtes toujours mort dans votre péché. La parole nous dit que nous passons d'un état de mort à un état de vie. La parole, et notamment Jésus, a mis en garde les hommes et les femmes qui l'écoutaient, en leur disant: prenez garde à la façon dont vous écoutez. Il y a plusieurs façons d'écouter, n'est-ce pas? Il y en a une où on se dit: j'aime bien la mélodie de ce que j'entends. Il y en a une qui dit: je veux connaître le contenu de ce que j'entends. Je veux savoir d'où ça vient. Le Seigneur ne veut pas nous séduire. Le Seigneur veut nous convaincre. Prenez garde à la façon dont vous écoutez. J'aimerais m'arrêter à cet endroit afin de vous poser la question directement. Est-ce que oui ou non, vous avez rencontré un puissant sauveur qui est capable de rendre vraie la prophétie donnée à Abraham, qui est capable de faire en sorte que vous ne soyez plus des victimes de vous-même et des manigances du malin, mais qui fait de vous des hommes et des femmes qui s'installent dans le camp de l'ennemi. Est-ce que, oui ou non, vous avez rencontré non pas le petit Jésus dans la crèche, le bon petit Jésus, mais le puissant sauveur, celui qui est capable de garder dynamique votre foi, de la garder réveillée jour après jour, celui qui est votre motivation au quotidien? Est-ce que nous parlons du même Dieu et du même Sauveur lorsque nous parlons entre nous les uns et les autres? Et c'est là la question que pose l'apôtre Paul. Si du moins, vous l'avez entendu, La suite des versets s'adresse aux croyants qui ont résolument emboîté le pas du Sauveur, ceux qui sont attentifs à sa voix et ceux qui n'attendent qu'une seule chose, d'être formés par lui, d'être enseignés par lui, d'avoir le péché réglé dans leur vie, d'être délivrés par lui, d'être guéris par lui. Est-ce que vous l'avez rencontré? Je vais prier et j'aimerais que, si vous n'avez pas pu dire oui à cette question, si vous ne pouvez pas, par l'affirmative, dire oui, je l'ai rencontré, quelles que soient mes difficultés à côté de ça, quelles que soient mes difficultés de marche avec lui, oui, je l'ai rencontré et je veux qu'il agisse. Vous comprenez-moi bien? Je sais que la vie chrétienne n'est pas facile toujours. Je ne suis pas en train de dire que, voilà, on parle à fleur au fusil et tout ira bien. Évidemment, il y a des difficultés. Je ne parle pas de ça. Je parle de cette rencontre initiale qui fait naître quelque chose dans le cœur de l'homme et qui dure. Seigneur notre Dieu, nous savons, parce que nous l'avons entendu souvent, nos cœurs sont comme un livre ouvert devant toi. Et Seigneur, nous pouvons essayer de nous convaincre que tout va bien. Nous pouvons essayer de ne pas nous poser de questions. Seigneur, mais invariablement, tu vas nous confronter. Invariablement, un jour, tu vas nous poser la question directement. Est-ce que tu as rencontré un puissant Sauveur? Et Seigneur, alors que peut-être certains ne peuvent pas répondre oui à cette question, tiens, je prie afin que tu leur ouvre le cœur, que tu leur ouvres les oreilles, que tu leur donnes la possibilité, ô Dieu, de comprendre pour la première fois peut-être ce que cela signifie que de rencontrer Jésus, celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui ouvre les portes des prisons, celui qui enlève les chaînes. Seigneur, merci parce que tu peux à l'instant même accomplir cette œuvre dans un cœur. Seigneur, c'est merveilleux de savoir qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Que dès maintenant, la grâce de Dieu peut venir et nous submerger et rendre possible de comprendre ce qui était incompréhensible jusqu'aujourd'hui. Seigneur, tu es en mesure d'évacuer ce fondement, cette dureté de cœur dans nos vies. Tu es capable, Seigneur, de faire de nous des gens qui savent, parce que tu t'adresses à eux directement. Tu es capable, Seigneur, de nous rendre, de nous donner la force de vivre une autre vie. Seigneur, c'est là tout le sens de ta mort, de ta résurrection et de l'Esprit de Dieu venu sur la terre. C'est de rendre les hommes et les femmes capables de marcher devant leur Dieu dans la sainteté et dans la justice. Et Seigneur, je veux prier pour ces cœurs qui s'ouvrent à toi maintenant. Afin, Seigneur, que tu les inondes de toi. Seigneur, que tu viennes comme un feu dévorant pour éliminer tout ce qui est du moi. Tout ce qui est si personnel, Seigneur, à quoi on tenait tant. Et que tu évacues cela, Seigneur. Et que tu mettes un interdit dessus. Je prie, Seigneur, que ton sang passe, Seigneur, et que tu justifies ceux qui se tournent vers toi maintenant. Seigneur, qu'en sortant, ils puissent dire, j'ai rencontré un puissant sauveur. Seigneur, merci de faire cela dans le nom de Jésus. Amen.